Chaque mercredi entre 16h et 16h30 sur Radio Campus Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Lille Info, un magazine de Radio Campus réalisé en partenariat avec l'Université Lille 1. Une émission qui vous informe sur la vie, les études et les grands axes de la recherche universitaire. Et oui, bonjour à toutes et à tous, Lille Info, donc comme chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 16h30, où nos invités nous parlent un peu de ce qu'ils font et qui a un lien forcément avec l'Université Lille et avec le milieu universitaire d'une manière générale. Aujourd'hui, on va donner la parole à des étudiants d'ailleurs qui vont se présenter, qui ont gagné un challenge, on va dire, et qui ont de beaux projets en matière d'informatique. Alors on va présenter peut-être de gauche à droite.
Donc Pierre Falaise, donc étudiant en informatique en Master 1.
Voilà.
Bonjour, moi c'est Antoine, étudiant en informatique en Master 1 à Lille aussi.
Et bonjour, c'est Benjamin Danglot, je suis aussi en M1 Info.
Voilà, donc le plaisir que nous avons de vous accueillir aujourd'hui est lié à un projet, à une expérience que vous avez menée, à un concours que vous avez en fait passé, un challenge qui vous a permis d'exercer vos compétences, votre talent, votre imagination par rapport à une problématique. Alors voilà, là j'explique d'une manière globale, mais maintenant vous allez me présenter ce projet.
Alors en fait, c'était pas vraiment un projet, c'était plus un concours que Google proposait à tout le monde, c'était ouvert à tout le monde. Et c'était résoudre un problème donné qui touche au véritable problème que Google résout tous les jours.
Alors, c'est vrai que bon, on présente pas Google, on va pas faire de la publicité pour cette immense structure commerciale. Néanmoins, Google résout un certain nombre aussi de problèmes concrets pour les internautes. Je pense que quelque part, on utilise quand même pas mal ces services, donc on peut quand même expliquer en quoi les évolutions de Google peuvent nous concerner. Et vous avez eu des idées aussi sur le développement de la technologie Google et des services qu'ils peuvent proposer. Mais tout d'abord, on va rappeler le contexte de ce concours et les différents moments, les différents temps sur lesquels vous êtes intervenu.
Donc le concours se passait en gros en deux étapes. On avait d'abord une étape de qualification donc, qui se passait sur plusieurs sites, donc sur Lille 1 aussi en autre pour nous. Et donc après, les meilleurs de ce tour de qualification étaient conviés à Paris, au siège social de Google. Et donc là, ça se passait en deux jours. Donc le premier jour, on avait une sorte de test pour après arriver au vrai jour, en fait, à la vraie finale où on devait résoudre un autre problème.
Voilà. On peut peut-être parler des différents problèmes et des propositions que vous avez faites, hein.
Oui, alors le premier problème qui s'est posé pendant la phase de qualification, l'intitulé c'était résoudre l'organisation des serveurs dans un data center, donc les grands entrepôts où les entreprises stockent leurs serveurs, de façon optimale ou la plus optimale possible, en prenant en compte les contraintes de place, de refroidissement et toutes les autres contraintes techniques qui peuvent s'amener à ça.
Deuxième problématique.
Alors la deuxième, elle était plus pour le fun, vu qu'au soir Google nous a offert des pizzas et le but c'était de découper les parts de pizza les plus royales, comme il disait, tout le monde connaît la fameuse reine en pizza, hein, champignons et jambon, et le but c'était de découper les plus belles parts, on va dire, de pizza.
Bon, mais je pense pas que pour Google, ce soit uniquement du fun. Il y a derrière aussi de la rentabilité. Troisième solution.
Oui, donc ça, c'était donc la plus longue qu'on a eu à faire sur pratiquement 7 heures. C'était en gros un projet actuellement développé par Google qui s'appelle Loon, qui consiste à envoyer des ballons dans l'atmosphère pour essayer de couvrir au mieux les zones encore peu couvertes aujourd'hui, donc avec un réseau de 4G. Et tout le problème consistait à trouver la meilleure altitude des ballons pour essayer de répartir au mieux ce réseau.
Alors, c'est vrai que Google, on imagine qu'ils ont une armée d'ingénieurs. Est-ce que cette armée d'ingénieurs est capable de résoudre tous leurs problèmes? Visiblement non, puisque Google fait appel à l'imagination des étudiants qui sont comme vous en M1.
Oui, bah après, nous, on avait quand même des sujets qui étaient assez, enfin beaucoup plus faciles que ce qu'ils ont à faire réellement, parce qu'on avait au final très peu de temps par rapport à eux. Mais ce qu'ils recherchent d'abord, c'est oui, peut-être trouver des façons assez innovantes de les résoudre. Et puis après, dans un second temps, il y a tout aussi une recherche de recrutement, en fait, de jeunes qui sortent d'université, justement, pour après pouvoir entrer chez Google.
Bon, on imagine bien que pour vous, il peut y avoir aussi un enjeu professionnel derrière.
Oui.
Et donc, ce concours que vous avez emporté à 3, c'est ça, hein, collectivement, quand donc, même.
En fait, on était 4, mais
4, voilà. Après, il faudra chacun le convertir en termes de profil de poste, peut-être intégrer à un moment donné, vu les compétences de chacun, une carrière qui peut vous être proposée par Google ou d'autres, d'ailleurs.
Oui, bah, je pense qu'il faut parler à Benjamin de ça.
Qui merci. Oui. Donc, suite après le concours, j'ai été contacté par une RH de Google qui m'a proposé, enfin, pas proposé, mais...
Suggéré,
et puis elle m'a expliqué ce que pouvait offrir Google. Donc j'ai été très intéressé, on a échangé pas mal de fois, et donc ça s'est fini par le fait que j'ai juste donné mon CV. Et donc,
ça peut servir dans un an ou deux.
Voilà, dans un an ou deux. En plus, moi qui veux partir dans la recherche, Google propose aussi un programme de recherche, donc ça peut peser, je pense.
D'autant plus que les universités, je ne parle pas forcément de l'ILA, sont souvent en lien avec des grosses entreprises qui, dans leur recherche d'application, voilà, font appel aux services de l'université pour résoudre un certain nombre de problèmes théoriques et qui passent vite fait à la pratique. Voilà. Donc, ici aussi, on est dans une zone, hein, je ne sais pas, vous connaissez un petit peu l'environnement en termes professionnels au niveau de ce qui se passe sur Eurotechnologie, etc.
Oui.
Vous pouvez peut-être en dire un mot, alors.
Eurotechnologie, donc, c'est un grand site qui héberge beaucoup d'entreprises et de start-up liées notamment à l'informatique. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un vivier d'emplois, de personnes à contacter, de contacts à avoir. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je sais que pour mes stages passés et même mon stage à venir, c'est un des points où je vais tout de suite prospecter, parce que c'est évident qu'il y a du...
Il y a du potentiel.
Voilà.
Donc, effectivement, on a parlé de Google. On pourrait parler d'IBM, en l'occurrence, ouais. Sur Euratechnologie, qui commence à beaucoup recruter. Je crois qu'il y avait 600 postes cette année.
À peu près, ouais. Ouais.
C'est quand même assez énorme pour une région. Sachant que les étudiants et les masters et au-delà, les chercheurs qui sont formés à l'université, ont aussi ce challenge, c'est d'arriver à répondre à tous les besoins de ces entreprises qui s'installent dans ces zones... industriel, informatique. Est-ce que vous pensez que la région a le potentiel de répondre à tous les besoins des entreprises qui s'y installent? Première question.
Alors, peut-être à toutes, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'île, de par son placement géographique, est très très bien vue. Une des capitales européennes, hein, on est très très proche des trois plus grosses capitales. Donc c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises informatiques qui s'y installent et qui s'y développent. Et je pense que c'est effectivement c'est pas terminé encore.
Donc quand on parle de troisième révolution industrielle pour notre région Nord-Pas-de-Calais, pour vous clairement l'informatique c'est une des grandes voies.
Ouais, certainement, très certainement. Et puis vraiment ouais, je pense que on est encore au début, c'est pas terminé. La nouvelle vague avec beaucoup de start-up, c'est la nouvelle mode un peu d'avoir beaucoup de petites entreprises concentrées dans le même endroit. Et ça à Lille aujourd'hui il y en a énormément, donc c'est ouais, c'est quelque chose d'important pour nous.
Combien dans votre formation en Master 1 vous êtes pour l'instant? Y a-t-il d'étudiants?
Environ 150, je dirais. Entre ouais. 130 et 150.
C'est à peu près ça. Ouais.
Et donc dans ces 150, alors après on parlera d'un autre problème qui est celui des perspectives d'études à long terme. Est-ce que vous pensez terminer votre cursus en Master ou est-ce que vous pensez ensuite faire de la recherche dans le cadre... d'une suite, une recherche dans un labo quelconque à l'université.
Donc, moi, comme je l'ai déjà dit, oui, je souhaite plutôt partir dans la recherche et continuer après vraiment dans l'innovation, faire, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais faire avancer l'humanité ou au moins y participer un petit peu.
Un doctorat en perspective.
Oui, oui, tout ouais. à fait.
Alors justement, ce qui est intéressant de savoir, est-ce que vous êtes tous de la région au départ?
Ouais, alors moi, je suis pas de Calais, mais ça reste
ouais,
la région.
C'est la région, ouais, tout
mais,
à fait.
Ouais.
Parce que il a été constaté, et c'était l'objet d'une conférence de presse d'ailleurs qui a eu lieu ce midi au Conseil régional, que les étudiants de la région, enfin les lycéens de la région plutôt, avaient beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir et notamment dans des études longues par rapport à des étudiants ou à des élèves qui viendraient d'autres régions et qui, pour qui les études longues sont déjà un objectif. Est-ce que vous, quand vous étiez lycéen, vous aviez déjà cette ambition d'études longues ou est-ce que c'est venu en pratiquant ces études, en étant dans la matière que vous avez apprise, que vous avez pas acquise en termes de compétences? Est-ce que l'idée vous est venue d'aller plus loin pendant votre parcours universitaire et pas avant au lycée?
Alors, moi, je sais que faire le master, c'était quelque chose que je visais depuis assez longtemps, mais c'était pas quelque chose que je me fixais comme objectif principal. C'est-à-dire que j'avançais au fur et à mesure. C'est vrai que je suis arrivé en études supérieures, je connaissais pas forcément ce que j'allais étudier. C'était vraiment c'était un pari un peu que je faisais. Et ça m'a plu, donc j'ai continué. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis content d'être là où je suis, je me verrai pas arrêter.
Alors, deuxième expérience, vous voulez devenir docteur, oui. doctorant. Est-ce que c'est venu au fil de votre découverte de vos compétences ou est-ce que déjà au départ vous avez cette idée d'aller le plus loin possible?
Ouais. C'est vrai qu'au départ j'avais déjà, moi c'était scellé, je voulais faire un bac plus 5, bien que durant la formation j'ai eu des périodes d'hésitation, mais... au final, aujourd'hui, je suis vraiment convaincu de ce que je veux faire et même au-delà et oui, partir loin.
Bah, moi, on va dire que j'ai eu la chance dès le collège de savoir ce que je voulais faire plus tard. Donc, je m'intéressais vraiment à l'informatique pure, la programmation et tout ce qui va avec. Et donc, dès le collège, j'avais dans l'idée de pas forcément de poursuivre jusqu'en bac plus 5, mais déjà de faire une carrière informatique. Et après, je me suis dit d'abord en bac plus 5, et au fur et à mesure, donc il y a 2-3 ans, je me suis dit pourquoi aller encore plus loin. Et donc là, je suis plus dans l'optique de faire un doctorat, en fait.
Donc effectivement, pour moi, vous semblez être des exceptions. La preuve, c'est que vous avez réussi sur ce concours à montrer votre différence. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour que la situation par rapport à ces élèves de lycée, voire même avant de collège, puisse prendre en compte cette dimension à long terme? Est-ce que vous avez déjà un petit peu une idée de sur quelle compétence ou quel point il faudrait insister? Peut-être il y a des choses à améliorer dans le système aussi des études au lycée ou du collège?
Moi je trouve que le système de présenter seulement en terminale le choix en fait donc par post-bac des études supérieures, c'est un peu tard. Enfin, on a la chance de faire quelques stages en seconde et tout ça, mais enfin je trouve que beaucoup de personnes ont le sentiment qu'ils doivent faire le choix de leur vie juste en terminale. Après, au niveau informatique, je sais que là ils essayent de faire des réformes pour proposer de plus en plus tôt justement du code, des trucs comme ça, dès le primaire, je crois. Et ouais, c'est peut-être des trucs qui vont aider les gens à prendre des décisions donc plus facilement.
Donc l'initiative de ce concours, elle revient à un opérateur privé, on va dire, commercial. Est-ce que vous préconisez également que dans le système de l'université, il y ait des améliorations qui soient faites, voire des propositions pour booster un petit peu les étudiants? Et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer?
Nous, pour ce concours-là, c'est vrai qu'on a été fortement boosté par l'université, donc je pense que ça fonctionne bien. Il y a eu une grosse campagne par nos professeurs, enfin tous les encadrants qui étaient là. Ils nous ont contactés pour justement cet événement en fait. Pareil au niveau de la nuit de l'info, que ça fait, enfin c'est un autre événement, mais c'est pareil, ils font pareil. Et je pense que ça marche bien aujourd'hui. Ils font une bonne campagne de pub pour ces événements-là. Et s'il y a d'autres événements, moi je pense que j'y participerai.
Alors, dans la région, vous savez que les écoles d'ingénieurs et puis les universités se rapprochent parce qu'elles ont des intérêts communs. Il y a donc plusieurs lieux de formation possibles. Il y a aussi donc des entreprises différentes qui viennent de s'installer ou qui viennent chercher ici au sein des universités les compétences de demain. Tout cela, ça fait un vaste élan, on va dire. Comment vous sentez l'avenir par rapport à la fois aux formations et aussi aux débouchés économiques et au développement de la région dans le cadre de cette troisième révolution industrielle dont on parle beaucoup, mais on essaie de traduire un petit peu concrètement en quoi ça va consister.
Je sais que le Nord, il fait quand même pas mal d'efforts, donc justement pour cette troisième révolution, on parlait de RAD technologique tout à l'heure, mais il y a énormément d'autres sites, la Pleine Image, il y a aussi la Haute-Borne qui est juste à côté. Elle investit quand même pas mal d'argent à la fois dans la recherche, mais aussi à la fois dans les formations pour faire la recherche. Et je pense que oui. Après, il y a aussi le projet de réunir toutes les universités de Lille qui permet à la clé d'avoir quand même pas mal de financement de l'Europe. Et ça peut être très intéressant si on l'obtient.
Est-ce que vous pensez que la région Nord-Pas-de-Calais, en termes d'université, est en capacité d'amener des publics étudiants qui ont au départ quelques petits problèmes, soit économiques, soit de milieux socio-culturels, à dépasser ces petits handicaps, on va dire, pour avoir un parcours de succès?
Oui, justement, tout le système de bourse est donc mis en place permet énormément d'aider ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de se payer des études longues. Et je trouve que c'est vraiment un système qu'il faut garder. C'est dommage de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut pour des causes financières, en fait. Et je trouve ça quand même assez génial, ce système.
Donc, dans la situation économique un peu complexe que vit la France, hein, on va dire, sinon l'Europe, vous pensez qu'on avance dans ce domaine, dans la région Nord-Pas-de-Calais?
Avancer, je ne sais pas. Le système est déjà mis en place. Après, je ne sais pas les futurs projets que l'Europe a à ce niveau-là, peut-être.
Non.
Est-ce que vous seriez prêt à mettre vos compétences informatiques dans la résolution de problèmes économiques, notamment comment, avec un budget, on peut l'affecter pour un résultat meilleur?
C'est pas forcément les problèmes qui nous intéressent le plus.
Mais à partir des parts de pizza, on peut quand même trouver des solutions.
Il y a toujours moyen de...
Voilà, vous voyez qu'il y a quand même derrière des bonnes idées.
Ouais.
Voilà. Donc maintenant, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu comment vous projetez dans le M2, qui sera votre année de l'année prochaine.
Je vais commencer. Donc ma spécialisation, ce sera vraiment dans le développement logiciel. Donc puisque moi, je suis dans l'optique de m'arrêter après le master et donc de trouver un emploi. Et donc tout ce qui est conception, développement de logiciel et ce qui est aujourd'hui de manière le cœur de la demande des entreprises. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça et que c'est un domaine qui est quand même relativement passionnant et intéressant.
Oui, donc moi ce serait plus un master spécialisé, pas vraiment spécialisé au final, puisqu'il va toucher à beaucoup de domaines différents afin de me préparer à la recherche et aux besoins auxquels je vais devoir répondre. Et donc Pierre, c'est un peu pareil, si tu veux compléter.
On a décidé de postuler dans le même parce qu'on a quand même des objectifs assez similaires dans la poursuite d'études. Et c'est un master qui nous correspondrait assez bien.
Alors, le fait que vous deux, vous avez un projet un peu commun, est-ce que premièrement ça vous aide d'être parfois ensemble pour réfléchir et voir trouver des idées et des solutions? Et deuxièmement, est-ce que ça peut vous donner aussi l'idée de créer ensemble un projet, sinon une start-up?
Je pense que oui. Ça fait depuis la première année de DUT qu'on se connaît et qu'on a, depuis ce temps-là, toujours été ensemble. On a fait un Erasmus ensemble, par exemple, des projets comme ça. Et donc, comme on s'entend bien, ça nous aide forcément, lorsqu'on travaille ensemble, à mieux réussir, je pense. Et si on a l'occasion, pourquoi pas, il faut trouver l'idée.
Alors vous deux, vous êtes convaincus, on est trois. Enfin, vous êtes trois aujourd'hui ici. Est-ce que l'idée des compétences, de la mise en commun de compétences, du travail collectif, c'est quelque chose qui vous semble incontournable? Comment, à partir d'une équipe, on peut faire émerger des idées et les mettre en application?
Nous, déjà, de par notre formation, on est amené beaucoup à penser comme ça, c'est-à-dire à travailler, que ce soit en groupe, que ce soit sur des travaux de courte durée, donc des TP ou des projets de plus d'ampleur. On est systématiquement mis à mettre notre travail à contribution à plusieurs. Et donc, je pense que c'est important. Et on le voit aujourd'hui avec le nombre de startups qui commencent par un groupe d'anciens étudiants, parfois amis, et puis qui mettent en lien leurs compétences et qui arrivent à créer quelque chose de vraiment novateur.
Alors, si on va plus loin, est-ce que les entreprises qui pourraient vous recruter, parce que je pense qu'elles sont aussi à la chasse de compétences, qu'est-ce qu'elles doivent peut-être aussi changer pour attirer les meilleurs? Est-ce que au niveau de la forme du travail, au niveau de la responsabilisation des gens qui vont y travailler, elles doivent aussi réfléchir de leur côté à fournir à leurs futurs cadres des conditions qui leur permettent bien sûr de réussir, mais aussi de trouver des solutions innovantes et donc d'avoir une certaine forme de liberté, une capacité à réfléchir et à innover.
C'est le genre de comportement qu'on trouve dans les grandes entreprises. C'est quelque chose qui vient plus à la base des Amériques, donc des grosses entreprises américaines d'informatique, mais ça se développe un petit peu en France dans certaines entreprises. Et c'est vrai qu'on retrouve ça de plus en plus comparé au management un peu plus à l'ancienne et un peu plus dans les cases. Mais je ne sais pas si c'est vraiment développé dans toutes les entreprises aujourd'hui et on n'a pas l'expérience du milieu professionnel, je pense, pour répondre vraiment à ça.
Mais c'est pour vous un facteur de réussite aussi pour les entreprises françaises et notamment les startups?
Je pense, oui. C'est pour ça que le modèle est adapté, c'est parce qu'on l'a vu fonctionner ailleurs et donc on se dit si ça marche chez eux, ça peut marcher chez nous. Et c'est vrai que mettre l'employé en condition plus décontracté, moins à l'abri derrière des règles, derrière des contraintes, je pense que ça aide à travailler de façon plus décontractée et donc au final plus responsable. Sans pourtant qu'il y ait de problèmes particuliers.
Ouais. Donc on peut dire que la troisième révolution industrielle passera aussi par le respect des personnalités des gens qui vont y contribuer et par la possibilité d'y prendre dans ces entreprises des initiatives.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont, notamment les entreprises liées aux nouvelles technologies, qui vont vraiment se démarquer, ça sera vraiment par ce... Si ce n'est pas que par ce côté-là, mais au moins... En partie par ce nouveau système de management et de gestion des employés. Ouais.
Alors, si vous étiez en situation de pouvoir choisir entre, on va dire, 100 entreprises qui vous demandent, quelles seraient lesquelles, sur quels critères vous mettriez en avant celles dans lesquelles vous souhaiteriez vous mettre éventuellement à disposition, ou au moins mettre à disposition vos compétences?
Moi, d'abord, le domaine ce qu'ils font, en fait, réellement, si le projet qu'ils mènent est intéressant, c'est, je pense, le critère principal. Après, plutôt aussi, le côté social de l'entreprise, est-ce qu'on est proche des autres employés, des patrons et tout ça. Je pense que oui, c'est un deuxième facteur de sentir bien dans l'entreprise, en fait.
Voilà, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose que vous avez un peu étudié?
On n'a pas eu l'occasion.
Donc, qui vous concerne?
Peut-être.
Que vous trouvez intéressant, oui, comme démarche?
Pour mon stage de licence 3, j'ai eu la chance de travailler dans une petite start-up donc, qui comptait que 2 employés. Et en fait, on a vraiment un niveau de proximité très élevé par rapport justement à nos tuteurs, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et c'est pour ça que je ne pense pas me voir travailler dans une trop grosse société où on ne connaît pratiquement pas ses patrons et on doit faire ce qui est marqué sur le planning, en fait.
Alors, moi, pour ma part, je travaille dans une assez grande entreprise qui est présente un peu partout en France. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de ce côté-là. On n'a pas le côté traditionnel d'éloignement avec la hiérarchie. Il y a vraiment un rapprochement. Alors certes, comme c'est une très très grande entreprise, on n'est pas forcément en contact directement avec tous les membres de la hiérarchie. Mais j'avais de très bons rapports avec mon chef et mes collègues, que ce soit de collègues de travail ou des collègues qui travaillent dans un milieu différent. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'agréable.
Donc pour vous, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi la qualité du travail et la relation, on va dire, humaine.
Oui, enfin, financier, c'est toujours une bonne motivation, mais c'est vrai que si tous les matins on se lève avec des chaussures de plomb, comme on dit, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'aller en entreprise puisque j'ai fait juste un stage en laboratoire, donc ici à la Haute-Borne. Mais là, c'est pareil. L'ambiance, c'était super. On se disait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on s'entendait tous bien, on rigolait, il y avait pas de, on se connaissait tous, et puis voilà.
Alors, une dernière question, jusqu'où géographiquement vous seriez prêt à aller pour travailler?
Ça, c'est la grande question, même pour moi aujourd'hui, puisque bon, avec l'histoire de Google, je serais susceptible d'aller partout dans le monde, enfin. C'est ce dont on a discuté, mais il y a aussi le fait de ma famille, tout ça. J'ai pas trop envie de partir du nid ou enfin de me déraciner, mais c'est vrai que partir aussi, ce serait vraiment une expérience super, vu qu'avec Pierre on est parti à Glasgow et c'était vraiment génial, on s'est vraiment éclaté.
Donc l'expérience Erasmus, on va dire, c'est peut-être une façon de voir les choses autrement quant à un dépaysement possible pour un avenir professionnel.
Oui, c'est vraiment une bonne expérience. Hein, on l'a fait tous les trois.
Ouais.
Et ouais, moi je pense que si on a l'occasion de le faire, il faut le faire.
Moi, je pense même que tout le monde devrait le faire en fait. Ce serait même devrait même pas être peut-être laisser le choix quand même, mais vraiment insister, c'est quelque chose de vraiment important. Ça ouvre l'esprit, ça nous permet de découvrir le monde, en fait. On a une vision du monde quand on est dans son pays, chez soi, qui est quand même assez différente de ce que ça peut être réellement. Et c'est vraiment important. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les trois fait l'expérience et je pense qu'on est tous les trois prêts à partir n'importe où.
Alors, c'est vrai qu'Erasmus, c'est plutôt réservé à l'Europe. Est-ce que vous voyez dans le monde aussi des zones qui vous paraissent intéressantes en termes de carrière et en termes de potentialité?
Bah, je dirais les États-Unis, évidemment, la Silicon Valley, enfin, y a quand même pas mal de monde qui en rêve en informatique. Mais après, je suis preneur d'autres endroits. J'ai pas encore beaucoup réfléchi à tout ce où j'irai plus tard, mais pourquoi pas.
Voilà, bien, on vous souhaite bonne chance en tout cas, bonne continuation d'études et puis bon succès pour les années qui viennent.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Voilà, c'était Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. On va reprendre le cours de notre journée qui se passe aujourd'hui. Vous le savez sans doute puisque vous écoutez depuis un bon moment, je le pense. Sinon, vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Nous allons nous retrouver maintenant sur l'Université de Lille pour le Festival Mixité. Et c'est tout de suite sur Radio Campus. Bonne écoute, bonne soirée à l'écoute de nos programmes et des concerts que vous pouvez entendre qui sont en direct à l'Université Lille. Il suffit de vous rendre à la Métro Cité Scientifique, c'est gratuit, ouvert à tous jusque tard ce soir. N'hésitez pas, il va y avoir vraiment des bombes ce soir musicales. Et donc voilà, à découvrir sur le 106.6 FM www.campusil.com. Bonne écoute, bonne journée, bonne soirée aussi.